Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Et nous allons commencer aujourd'hui en parlant du championnat d'Italie. Désormais orphelin de la star Cristiano Ronaldo, restera-t-il attractif ce championnat ? Qui pour capter la lumière ? La Juventus tente difficilement de se remettre d'une bien mauvaise année, mais a mal commencé sa saison déjà, alors que la Roma bénéficie de l'effet Mourinho et Milan de son nouveau buteur, Olivier Giroud. Les derniers échos d'Italie avec Matteo Cioffi. Les Bleus au rattrapage après l'échec à l'Euro. Les champions du monde sont très attendus en vue de la prochaine compétition mondiale au Qatar. Quelle trace a donc laissé l'élimination face aux Suisses ? Sur ce groupe, Didier Deschamps a-t-il toujours la main ? Et va-t-on voir une équipe régénérée durant ces prochains matchs ? Il y en aura trois. Enfin, nous évoquerons les éliminatoires qui commencent aussi sur le continent africain. Et cela, nous le ferons grâce à Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui dans Radio Foot International.
Merci à vous.
Merci aussi à Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Tout va bien ?
Ça va et vous ?
Oui. Hein. Et bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Nous on est déjà là depuis, on anime cette émission.
On n'a pas eu de vacances.
C'est pas du tout la rentrée.
On n'a pas eu de vacances.
On n'a pas eu de vacances depuis
moi non plus.
le 9 août. On est la fidèle au rendez-vous ainsi que David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Bandinelli, Bandinelli, Bayrami, la frappe avec Marco Su. Et l'ouverture du score à la 21e minute pour Empoli. Ça fait 1-0 en faveur du promu. La Juve chute à domicile pour sa première face à Empoli, le promu qui mérite largement sa victoire 1-0. Le match post-Cristiano Ronaldo est un échec.
Et oui, parce qu'il est parti. Ciao Cristiano. Ce matin, la Juventus de Turin a officiellement dit au revoir à Cristiano Ronaldo sur son compte Twitter, ajoutant même une vidéo qui résume ses trois saisons comme Bianconeri. 101 buts et 5 trophées en 134 matchs avec la vieille dame. Rappelons que quelques jours avant, c'était Romelu Lukaku, le buteur belge de l'Inter Milan, qui lui, deuxième meilleur buteur la saison dernière, derrière Cristiano, il avait quitté l'Inter et l'Italie. Ce championnat s'est-il soudain appauvri, Naïm Moniol, ou en tout cas attirera-t-il encore la lumière selon vous ?
Beaucoup moins. Cristiano en attirait déjà beaucoup sur son simple nom. Vous faites partie des meilleurs joueurs du championnat de l'année dernière et malheureusement les finances des clubs ne permettent pas de pouvoir recruter d'autres joueurs. Donc forcément,
presque dire les deux meilleurs joueurs,
oui, je suis assez d'accord. En tout cas, les deux plus en vue.
Bah oui.
Donc forcément, c'est un coup d'arrêt pour le championnat italien qui revenait bien depuis 3 ans même. Coup dur parce que les clubs peuvent pas recruter ne serait-ce qu'à valeur égale. Ça, c'est à valeur égale, personne ne remplacera ni Cristiano ni Lukaku. Et puis pour ceux qui sont arrivés et ceux qui sont restés, il va falloir essayer de tirer vers le haut des équipes en difficulté économique, pas forcément à leur avantage sportivement. En tout cas, on verra bien pour la Juve ce que ça donne, mais là, le début de saison n'est pas terrible. Donc oui, c'est un coup d'arrêt pour l'Italie, c'est sûr.
Franck, pour vous aussi, c'est un coup d'arrêt ?
Non, pas du tout. Et c'est un petit teasing pour notre ami Matteo Cioffi. Je pense on parle quand même du championnat du pays qui est champion d'Europe, quoi. Donc pour moi,
c'est
je trouve
un peu
que
le paradoxe, ça, c'est, justement.
Attends, Bruno. Il y a un lien entre les sélections et le championnat. Il n'y a jamais vraiment de lien entre la preuve, c'est l'équipe d'Angleterre et son championnat.
Non, d'accord. Ça c'est Bruno Constant qui le dit. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que ça me donne un regain d'intérêt. Après, peut-être toi, tu ne l'auras pas.
Mais je pense que les gens, je suis d'accord,
ça donne un regain d'intérêt. Franck, je dis pas qu'il est plus fort.
Regain d'intérêt ne veut pas dire qualité de jeu. Attention, qu'il y ait 4 ou 5 équipes au lieu de 2 qui puissent avoir le titre.
Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement dit un regain d'intérêt. Parce qu'on leur tape dessus.
Il y a un regain d'intérêt sur les 2-3 dernières années aussi, si tu regardes bien. Sur les 2-3 parce que tu avais un regain d'intérêt et de la qualité de jeu.
Parce que tu as aussi plus de clubs qui s'étaient mis dans la
lutte. Atalanta, par exemple.
N'oublions pas quelque chose.
Laissez juste Franck terminer sa démonstration.
C'était pas une démonstration, c'était simplement de dire, pour moi, il y a un vrai regain d'intérêt. On s'est moqué.
De chercher, finalement.
Moi, non. Mais oui, voilà.
D'essayer de trouver l'intérêt.
J'avais déjà beaucoup d'intérêt pour cette équipe. Mais effectivement, regardez, ouais, ils ont battu Andorre, ils ont battu machin. Sauf qu'à l'Euro, ils ont mis tout le monde d'accord. Ah, bravo. Et on parle de joueurs qui retrouvent leur championnat. Mais c'est des joueurs. Joueurs qui vont retrouver ce championnat, qui en seront les animateurs. Leurs clubs sont peut-être appauvris, les clubs ont peut-être des soucis, mais en attendant, les gens vont envie d'aller voir.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Italie.
Exactement, t'as envie d'aller les voir jouer.
Que les médias
se disent, oh bon, finalement, évidemment, à côté du grand cirque qu'est la première ligue, qui l'est toujours, ou la Ligue 1 avec l'arrivée de Léo Messi, effectivement, ça fait peut-être un petit peu, ça fait tarte, quoi. Mais non, pas du tout. Pour moi, je suis désolé. Je trouve que ce championnat mérite toujours le respect, quand bien même les clubs ont moins de moyens.
On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas de respect. On a dit que ce serait moins, le jeu serait moins intéressant. Et ce qui est dommage, parce que l'équipe d'Italie est championne d'Europe. La Juve a perdu son titre. L'Inter vient d'être champion d'Italie. Donc, il y a un peu de concurrence qui arrive. Donc, l'étape du dessus, c'est de retrouver les clubs italiens performants en Ligue des Champions. Sauf qu'en Ligue des Champions, ils auront beaucoup de mal à être performants.
Aucune certitude, Naïm.
Puisque l'Inter, tu perds Lukaku. La Juve, tu perds Cristiano. Et puis, Milan AC, ça reste toujours un point d'interrogation géant. Parce qu'il y a des joueurs de bonne qualité qui sont arrivés.
Ça a recruté. Ça a bien recruté.
Oui, ça fait quelques temps que ça recrute pas mal Milan. Mais finalement, entre bien recruter et être au niveau du recrutement, il y a toujours un fossé qu'ils n'arrivent jamais à combler.
En tout cas, c'était deuxième. Bruno.
Moi, je pense que l'intérêt sera toujours là, parce que ce qui fait l'intérêt, alors il y a deux choses, il y a les stars, et là-dessus, c'est clair. Quand il n'y a pas de stars dans un championnat, ça attire moins les regards. Mais il y a quelque chose d'important, et Naïm l'a souligné, l'intérêt pour le championnat d'Italie, il n'est pas de cette année, de l'année dernière, il est depuis 3-4 ans. Il est arrivé avec Maurizio Sarri, qui a un peu renouvelé, révolutionné un peu l'identité du football italien, jeu de possession plus offensif. Et ça s'est prolongé avec Gasperini et l'Atalanta, ça s'est prolongé avec Sassuolo et De Zerbi, ça s'est prolongé surtout avec la sélection, qui était plaisante à voir jouer. Pour moi, il n'y aura jamais de corrélation entre les sélections et, encore une fois, et les clubs. Et d'ailleurs, on voit le niveau des clubs sur la scène européenne. Les clubs italiens, ils ne brillent pas, en fait. Ils n'arrivent pas à passer le cap. Ils sont bloqués
en quart de finale. On parlait de
en
quoi
revanche,
de là, Bruno, on parlait de quoi? On parlait
en revanche,
du championnat de Serie A. On parlait
en
pas
revanche,
de.
Je suis d'accord que le championnat.
Tu te projettes sur les compétitions interclubs. Moi, pas du tout. Je parle de la Serie A. Et tu parles de l'absence de vedettes. C'est vrai.
Franck, c'est un ensemble.
Bruno, c'est vrai. C'est vrai que tu perds deux grands hommes. Mais à côté de ça, t'as un paquet de types qui ont été champions d'Europe. Elles sont là, les stars. Elles sont là pour le public italien. Elles sont aussi là.
D'abord, t'avais pas de stars dans l'équipe d'Italie championne d'Europe. Tu n'avais pas de stars comme t'as pu avoir des stars il y a 10 ans.
J'attends d'écouter Matteo sur le sujet.
Deuxièmement, le groupe des 26 champions d'Europe est très morcelé à travers différents clubs, ce qui est très bien pour l'intérêt du championnat, mais ce qui finalement ne met aucun club au-dessus en se disant tu peux compter sur lui pour tirer le championnat vers le haut et pour briller en Coupe d'Europe. Deuxièmement, c'est ça. Et troisièmement, dans les clubs dont tu parles, la Juve, le Milan. Alors le Milan, on va en parler en plus, avec énormément de joueurs francophones. L'Inter, t'as quand même beaucoup de joueurs étrangers. Tu as des joueurs italiens, Barella, c'est très bien. T'auras Chiesa à la Juve, voilà.
Mais tu as aussi des leaders importants.
Oui, mais tu as aussi beaucoup de joueurs étrangers qui font que ces équipes-là ont retrouvé de l'intérêt, le championnat a retrouvé de l'intérêt avec des joueurs étrangers. On parlait de Cristiano et de Lukaku. Cristiano et Lukaku sont pas italiens. Hein.
Et c'est pas des premiers choix, ceux qui arrivent. C'est Moïse Keane qui était en échec à Everton, qui est revenu à la Juve, et c'est par exemple Olivier Giroud qui était sur le banc à Chelsea. C'est ce que devenu le championnat italien. Malheureusement, il attire plus forcément les stars.
Eh bien, on va demander son avis à Matteo Cioffi, qui nous écoute évidemment depuis tout à l'heure. Bonjour Matteo.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Je commence à répondre à une petite question que j'ai entendue. C'est vrai, dans la nationale, il n'y avait pas une seule star, mais il y en avait 23.
C'est vrai.
Merci.
Voilà. C'est sa force.
Et là, c'est grâce à Matteo
qui nous parle.
Mais oui,
mais
je suis d'accord avec lui en plus. Voilà. Je savais qu'il allait aller sur ce terrain-là.
Matteo, est-ce que depuis que Cristiano est parti, vous avez l'impression, et nos confrères en Italie se disent, mince, on a perdu quelque chose ou finalement, pas trop?
Faut pas faire semblant de rien. C'est certainement un championnat qui a perdu de la qualité avec le départ dont vous êtes en train de parler. Soit dit, dans ces deux premiers matchs, on a eu droit à des rencontres très appréciables, plus que prévu, un nombre aussi consistant de buts. 66, dont 36 dans la seule première journée, qui est un record pour la première journée en Serie A. Une moyenne après 180 minutes de 3,3 goals par rencontre qui est absolument pas mal. des buts et aussi des surprises comme la défaite de la Juve face au promu Empoli ou le nul à domicile de l'Atalanta contre Bologne. Et encore, dans les premières journées, on a pu découvrir quelques joueurs qu'on connaissait pas et qui se sont tout de suite mis en valeur. C'est le cas seulement pour faire quelques exemples de l'anglais Abraham de la Roma ou du gardien de but milanais Mike Maignan qui, grâce à quelques excellents arrêts, a déjà conquis les supporters rossoneri qui rêvent d'oublier au plus vite Gigio Donnarumma.
Matteo, avant qu'on en vienne justement à ces équipes et au championnat, une question. Est-ce que Cristiano Ronaldo, quelle est la trace, quelle est l'empreinte qu'aura laissé ce joueur finalement en Italie, selon vous?
Il a laissé tout sauf une Ligue des Champions, qui était la raison principale de son recrutement à la Juve. Il n'a donc pas maintenu pour entier sa promesse, mais c'est tout de même un joueur qui a enflammé ses supporters et l'opinion publique italienne en général. C'est vrai que depuis qu'il a débarqué en Italie, on a toujours eu cette, déplaisante sensation que Cristiano vivait dans son monde doré, un peu loin des autres. Presque jamais, on l'a vu concéder des interviews, et quand il l'a fait, il a toujours préféré parler en espagnol ou en anglais, jamais en italien, chose qui l'a un peu éloigné des Italiens. Mais bon, il y a pire dans la vie, et personnellement, j'oublierai jamais son coup de tête exceptionnel face à la Sampdoria, un mouvement parfait à montrer dans toutes les écoles de football.
Bon, ben au moins, il aura laissé sa trace dans la tête de Matteo Cioffi. Alors, la vie sans CR7 a commencé à Turin et on a l'impression que ce club, et surtout Allegri, Matteo, est-ce qu'ils se sont débarrassés de Cristiano dans le sens, est-ce qu'ils l'ont laissé partir? On a appris ce matin, officiellement, la Juve l'a déclaré, il est parti pour 15 millions d'euros à recevoir, en plus étalé de la part de Manchester United sur 5 ans.
Et 8 millions de bonus, oui. Donc 5 acquis.
Allegri ne s'est pas déchiré les cheveux lorsqu'il a su que...
C'est arraché les cheveux, pas déchiré. Arraché les cheveux, mais je crois qu'il en a plus beaucoup, oui.
Voilà. Et donc, le club a besoin d'argent. Donc, à la fin, entre guillemets, se débarrasser de Ronaldo veut dire réduire les coûts. Ça fait quand même 31 millions d'euros qu'on épargne chaque année. Donc oui.
Alors Matteo, selon les chiffres de l'AFP publiés aujourd'hui, c'était un peu sidérant, c'est 86 millions d'euros que coûtait Cristiano chaque année au club. Évidemment, il y a 31 millions d'euros, ça c'était le salaire, mais en net. En brut, ça coûtait déjà 57 millions d'euros au club. Et en plus, il y avait l'amortissement du transfert qui était de 115 millions d'euros venant de Madrid et qui leur coûtait à peu près 30 millions d'euros par saison.
C'est un désastre. Est-ce qu'on a fait aussi le ratio par rapport à ce qu'il a ramené d'un point de vue économique? Alors, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais est-ce qu'il a généré financièrement?
Non, il a fait vendre beaucoup de maillots et tout
même,
ça.
Il a quand même marqué plus de 100 buts.
L'image de la Juve s'est aussi beaucoup développée du côté de l'Asie, ce dont rêve tout.
Attends, vous pouvez pas dire ça. Il a juste plombé les finances du club. Il a plombé les finances du club. Ils sont en grande difficulté financière.
Pas exclusivement à cause de
Ronaldo. Pas exclusivement, mais en très très grande partie à cause de ce transfert.
Tu plombes beaucoup plus tes finances à acheter et payer des mecs comme Rabiot, comme Ramsey, comme Betancourt, comme tout ça, comme Morata,
on dit ça à chaque fois.
Entre un Cristiano qui va te coûter une blinde.
Quel était le but de la venue de Cristiano Ronaldo à la Juve?
C'était d'amener la Juve de passer le cap, d'aller en finale et de la gagner.
Ouais.
Combien de Ligue des Champions a gagné la Juve avec Cristiano Ronaldo?
Combien ils en ont gagné 100?
Combien ils en ont gagné avec lui?
100.
Ils n'ont pas passé les huitièmes deux fois et les quarts de finale.
Matteo,
tu parles du principe qu'aujourd'hui
ils sont endettés.
Matteo,
tu t'endettes plus en payant des joueurs qui t'amènent rien qu'en payant un mec qui t'a marqué plus de 100 buts en 3 ans.
Matteo, il y a une chose, c'est que finalement le départ de Cristiano referme une anus horribili du côté de la Juventus, c'est ça?
Oui, 12 mois vraiment horribles qui ont commencé exactement il y a un an avec cette affaire, concédez-moi le terme pourri de Luis Suarez, son test d'italien pour pouvoir jouer en Italie. Ensuite, il y a eu les mauvais résultats sportifs.
Un test qui aurait été arrangé du côté d'une université pour faciliter la venue. Et finalement, comme ça s'est su, il n'est jamais arrivé du côté de l'Italie, Suarez.
Oui, il pourrait connaître le passeport italien Luis Suarez de façon qu'il puisse jouer à la Juve. Ensuite, il y a eu les mauvais résultats en championnat et surtout les mauvais résultats en Ligue des Champions avec l'élimination dans les huitièmes des finales qui était vraiment un choc terrible pour les supporters de la Juve. Puis il y a eu la Super League. Faut pas oublier que l'image d'Agnelli a été abîmée avec ces projets-là, et les gens ont commencé à regarder André Agnelli avec des yeux assez différents et ne le juge plus comme celui qui ne ratait pas un coup. Et puis la dernier pas, l'adieu de Cristiano Ronaldo, qui n'était pas attendu, surtout parce que quelques jours avant, Max Allegri avait confirmé au micro des journalistes que Cristiano Ronaldo lui avait confirmé de vouloir rester une autre saison à la Juve. Donc ça a été vraiment une année à oublier. Ajoutons aussi le choix d'avoir misé sur un entraîneur qui a été peut-être, je suis désolé pour lui, mais peut-être le pire entraîneur de toute l'histoire de la Juve.
Pirlo, pour pas le nommer, mais c'est
voilà, je vais pas le nommer parce que j'ai un profond respect.
Ouais, je comprends. Je comprends pour le joueur, on l'a tous. Mais la gestion de la Juve depuis 2-3 ans, c'est une catastrophe.
Oui, c'est pas que Pirlo, hein. C'était
Sarri
aussi.
Et c'est indigne du standing de ce club qui faisait partie des grandes d'Europe. C'est incroyable ce qui s'est passé.
L'équipe, pour vous, elle vient de réintégrer notamment un Toffi, n'est-ce pas, Franck, avec Moïse Kean, qu'on a plutôt nous apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Hein, si c'est à Everton, c'est moins. Est-ce qu'elle vous paraît sur de bons rails?
Pas vraiment.
Non, pas alors vraiment. Elle a mal commencé le championnat, mais elle a que deux matchs. Hein,
elle a mal commencé, mais enfin, il y a d'autres anciens grands d'Europe qui ont mal commencé dans d'autres championnats, d'ailleurs, pour pas les citer. Mais pour moi, clairement, ils sont affaiblis. Quand on voit quand on regarde les statistiques en fait de Cristiano Ronaldo, le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués,
101 buts en
3 les
ans.
Passes décisives. Alors effectivement, ça n'a pas débouché sur le titre majeur, ce pourquoi il était venu.
Franck, ils ont fini combien la Juve la saison passée à Cristiano Ronaldo?
Et les deux années d'avant?
Oui,
ils ont qualifié des champions à la dernière journée.
Les deux années d'avant, 9 titres consécutifs dans les deux dernières années avec Cristiano.
C'est un affaiblissement. Qu'il se soit affaibli, c'est un fait, mais on peut pas dire que Cristiano Ronaldo a plombé la Juve ou qu'il a rien amené, même s'il a pas gagné la Ligue des Champions. Je te l'ai dit, je te le répète, tu te plombes beaucoup plus avec des garçons comme Rabiot, comme Ramsey, comme Arthur,
qui t'ont coûté,
oui, mais ils te coûtent combien en salaire, ils te coûtent combien en charge? Ces mecs-là, ils te bouffent du pognon, ils t'amènent rien. Dybala, il coûte combien? Il a quasiment pas joué l'année dernière. Dybala n'a quasiment pas joué l'année dernière. Combien il prend, Dybala? Morata, il prend combien? En fait, le problème, c'est que comme on attendait beaucoup de Cristiano, il va focaliser. Non, prends pas un seul joueur sur le terrain, mais quand une équipe part autant en déliquescence à tous les niveaux, on n'attribue pas les responsabilités à une seule personne, Bruno, c'est malhonnête.
J'ai pas dit que c'était une seule personne. J'ai dit que le transfert, au final, c'est pas une réussite. Je suis désolé, d'un point de vue financier et sportif.
C'est un échec sportif.
Oui.
Voilà. Et aussi financier.
On est à peu près, oui, en plus. Massimiliano Allegri, en tout cas, après ces deux matchs, hein, parce que le championnat a commencé, 2 matchs, 0 victoire, et déjà à 5 points du premier. En l'occurrence, pour l'instant, c'est la Lazio, hein, au bout de 2 journées, de Mauricio Sarri. En tout cas, écoutons Massimiliano Allegri, parce que il est revenu après 2 années de break. On l'avait annoncé un peu partout, mais il revient à la Juve. Il est très attendu et il a déjà compris que la pression serait importante. Écoutons ses propos juste après la défaite face à Cagliari.
À cet instant, il faut seulement penser à se taire et à travailler pour retrouver une cohésion au sein de l'équipe, mais surtout de la sérénité. On a un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont hâte de se mettre en valeur. Et je suis triste pour eux, car je les ai vus affligés à la fin de la rencontre, tout en sachant qu'ils ont de grandes valeurs morales, mais aussi techniques.
Matteo, une question. Est-ce que Massimiliano Allegri, finalement, est l'homme de la situation, selon vous, pour relever cette Juve, pour s'appuyer sur les jeunes dont il parle?
Max Allegri a été rappelé à la base pour changer les cours d'une histoire entamée l'année passée avec Andrea Pirlo, mais désolé pour lui, dans ses deux premiers matchs, on a vu exactement la même Juve de l'année passée avec les mêmes limites, surtout au milieu de terrain, où les choses vraiment n'arrivent pas à fonctionner. On verra si Manuel Locatelli sera capable de remettre de l'ordre et donner surtout plus de créativité à ces niveaux du terrain.
Oui, Bruno Constant, on a même vu Chiellini à côté de l'entraîneur à un moment, et on avait l'impression que on discutait un peu de ce qui se passait sur le terrain en étant un peu interdit par rapport au spectacle durant le week-end.
Mais moi, je suis pas trop inquiet par le début de saison. C'est une équipe qui est en train de se remettre en reconstruction avec un nouvel entraîneur qui est aussi un ancien, qui a beaucoup d'expérience, qui va jouer. Le fondement de Massimo Allegri, c'était quand même le collectif, l'aspect collectif de cette équipe. Il n'y avait pas de stars avant, si ce n'est quelques-unes offensives. On va attendre énormément de Dybala avec le départ de Cristiano Ronaldo. Mais moi, Locatelli, c'est une super recrue, c'est un super joueur, super milieu de terrain. Quand il va
Chiesa aussi qui intégrer
un milieu de terrain à faire du bien. On parle du retour de Pjanic. Je sais qu'on l'aime beaucoup à Turin parce que c'est un vrai bon joueur.
Il y a eu cette nouvelle il y a quelques minutes, dirais, la Juve normalement ne devrait, vous savez, il y a Max Allegri qui dit que Ronaldo va rester à la Juve et puis Ronaldo se casse, donc là je crois plus à personne. Voilà. Mais normalement ça devrait pas être pour cette session du mercato, mais peut-être pour la prochaine.
Bon, ça serait une mauvaise nouvelle parce que c'est un joueur qui, effectivement, le problème majeur de la Juve, c'est le milieu de terrain, c'est son milieu de terrain. Il a perdu il s'est affaibli. Et après, offensivement, et ça manque de présence devant le but. Là, je suis d'accord. Morata est pas assez efficace. Et puis Dybala, on en parle depuis tellement d'années. Il déçoit chaque année à cause de ses blessures, mais aussi ses contre-performances.
Et il est capitaine, là. Il se retrouve capitaine de la Juve.
Et puis, ils ont un gardien aussi qui s'est chenille, qui est capable aussi de faire de plus en plus de bévues. On l'avait vu à Arsenal et j'ai l'impression que ça revient un peu dans son jeu, malheureusement.
Un petit mot encore sur la Juve?
Mais tout simplement pour dire que moi je suis assez d'accord que on est à un moment de la saison où on peut pas juger les résultats sur la qualité du jeu, c'est certain, parce que Chiesa qui a fait saison pleine l'année dernière, qui a enchaîné avec l'Euro, pour le coup il a été au bout,
qui va être l'homme fort de la
Juve, qui était déjà un joueur très important l'année dernière, va être l'homme fort en tout cas du secteur offensif, même globalement
c'était la petite star quand même des champions d'Europe.
Chiesa, Locatelli, on va se baser là-dessus, voir aussi ce qu'on fait en défense centrale, parce qu'ils sont exceptionnels, je les adore et je vous parle vraiment avec le cœur, les Bonucci, les Chiellini, mais ils vieillissent un petit peu les petits bonhommes, donc à un moment donné il va falloir que on change, que De Ligt s'impose un petit peu plus. Maintenant, je redis ce que je disais la saison dernière quand on voyait qu'ils allaient perdre le titre. C'est pas un drame que la Juve soit pas championne d'Italie. Ce qui serait dramatique, c'est qu'elle soit plus dans les quatre. Là, ça serait un scandale qu'elle tourne comme Arsenal tourne en Angleterre.
Oui, qu'elle échoue 2-3 ans pour avoir le titre.
Qu'elle se fasse sortir en poule de Ligue des Champions, ça serait incroyable. C'est pas un drame qu'elle soit pas championne d'Italie, parce que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Italie.
Par rapport
à son histoire. Oui, mais comme tous les clubs, j'ai l'impression qu'en fait, on a l'impression que c'est un truc incroyable. Comme tous les clubs, il y a des changements de cycle. Le Barça vit actuellement un changement de cycle. Le Real va le vivre dans les années qui arrivent aussi.
9 années avec le titre.
Oui, mais c'était exceptionnel pour le club, mais beaucoup moins pour le foot italien.
Exactement.
En fait. Tourne et c'est pas plus mal en fait.
Et même pour ceux qui s'y intéressaient. À la Roma, au contraire, on a l'impression de surfer un peu sur la vague Mourinho. 2 matchs, 2 victoires et un surprenant 4-0 à Salernitana, avec un but d'ailleurs du néo-bleu Veretout. Alors, quel est le secret? Sans doute José Mourinho, de retour en Italie, apparemment décidé à rester. En tout cas, c'est ce qu'il avait fait comprendre en arrivant.
Tu parles de...
Vous nous parlez de gagner des titres, mais nous vous parlons d'un projet qui s'inscrit dans le temps. Étape par étape, les trophées viendront. Le club ne veut pas d'un petit succès à court terme et isolé. Le club veut arriver au sommet et y rester.
Arrivare lì, e rimanere lì.
Matteo, il y avait déjà eu Ave et José, et maintenant c'est José Mourinho, le roi de Rome.
Ave mu papa. Tout d'abord, personnellement, je n'ai jamais vu un Mourinho aussi relaxé sur Rion comme depuis que le championnat a démarré. Je crois qu'à Rome, il a retrouvé cette dolce vita après quelques années un peu sombres en Angleterre. De toute façon, le Portugais n'a pas cessé de le répéter. En 4 matchs officiels, son équipe l'a vraiment satisfait. une équipe privée de son leader historique Edin Dzeko, passé à l'Inter, mais qui désormais a tout de suite trouvé des successeurs aux Bosniaques, comme le français Jordan Veretout, pour lui déjà 4 buts en 4 matchs, et Lorenzo Pellegrini, qui est prêt à suivre les traces de Francesco Totti et de Daniele De Rossi, c'est-à-dire devenir cet Italien symbole du club. Et puis il y a les nouveautés, Rui Patrício, un gardien qui assure de l'expérience, tandis que sur le plan offensif, le pari de José Mourinho concerne ce duo d'attaquants qui a déjà régalé les supporters romains, duo composé par l'anglais Abraham et l'uzbek Eldou. C'est un nom incroyable, Shumudurov, qui s'est déjà fait apprécier par sa rapidité qu'on avait vu l'année passée à Genoa. C'est vraiment une Rome qui, à mon avis, on l'avait peut-être déjà dit la semaine passée, peut se révéler une belle surprise, au moins pour ce début de saison.
Franck, belle surprise, cette Roma.
Je vais répéter ce que je vous ai dit la semaine dernière. Quand ils ont mis cette raclée terrible au Raja de Casablanca en amical,
oui, c'est vrai.
5 buts à 0. Une équipe du Raja de Casablanca qui avait quand même remporté une compétition continentale, la Coupe de la Confédération africaine, je me suis dit quand même, et qui avait encore toutes ses vedettes, puisqu'entre temps il y a des joueurs qui sont partis du Raja. Je me suis dit, cette équipe de la Roma, elle est pas mal partie. Il y a du potentiel. J'avais remarqué effectivement l'ouzbek. Mais pas
qui
que lui.
Qui s'appelle
Shumurodov. Shumurodov. C'est ça?
Avec une vraie tête d'ouzbek, ouais. En plus. Hein,
à peu près, ouais, on fait comme on peut, Matteo. Mais oui, voilà, si la Roma peut commencer, si elle peut se mêler à cette lutte durablement pour le titre, ça sera pas plus mal. On préfère un championnat où, effectivement, ça se bagarre. Moi, à titre personnel, je préfère un championnat où ça se bagarre, qui est 4-5 oui. Protagonistes, plutôt qu'on s'embête, pour pas dire autre chose.
Pour savoir déjà en début de saison qui sera champion.
Le plus tard possible sera le mieux, d'ailleurs.
Bruno, the special one, vous avez l'air plus souriant du côté de la Louve.
Non, ça m'a fait rire quand Matteo a dit ça, parce qu'on a dit exactement la même chose quand il est revenu à Chelsea pour son deuxième
passage.
Mais
happy one, hein, on se souvient, à Chelsea.
Il s'est passé la même chose quand il est arrivé à Manchester United les premières semaines, et la même chose à Tottenham les premiers jours. Et puis très vite, ça se dégrade. Donc on le connaît, José. Mais on parlait de regain d'intérêt. Certes, ils ont perdu Cristiano Ronaldo médiatiquement, mais médiatiquement, ils ont récupéré José Mourinho. Et Mourinho, on va en parler.
Tu vois quand tu veux, toutes les semaines. Tu y viens, toi aussi.
Mais non, mais Mourinho, c'est comme ça, on va en parler toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on a parlé ce week-end de la petite vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux? Quand il est dans le train, là, sur le chemin du retour,
en
il est avec sa pizza et son soda.
Ah, il est tout seul.
C'est du Mourinho craché. Il est malin, il est très bon là-dessus.
Mais à Londres, il ne mangeait pas une aussi bonne pizza.
C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il en mange un.
Il faut demander à Bruno Constant.
Et je le comprends, absolument sur les pizzas italiennes.
On continue à Milan, tandis que le champion sortant semble oublier un peu Lukaku du côté de l'Inter. On avait envie de parler des Rossoneri, des supporters Rossoneri, eux, sous le charme déjà d'Olivier Giroud.
Il gol di Giroud per il 3-1 milanista. Milan 3, Cagliari 1, minuti di gioco. Il gol del 4-1 firmato da Giroud. È stato Giroud con un sinistro a mezza altezza a superare il portiere avversario. Milan 4, Cagliari 1.
Molto orgoglioso.
Je suis très fier de jouer à Milan et de jouer à San Siro. Ce fut une grande émotion. Je suis très content de notre match. Oui, on m'a dit qu'il y a une malédiction, quelque chose de spécial avec le numéro 9, mais je ne suis pas superstitieux. Cela dépend de moi et pas du numéro que j'ai dans le dos. Je suis très honoré de jouer avec le 9, car quand j'étais petit, je regardais Van Basten, JPP et Pippo Inzaghi. Alors, j'en suis très fier.
Jean-Pierre Papa et Pippo. Alors, sono molto orgoglioso e felice.
Il est très orgoglioso et felice. Il parle déjà italien, hein, Matteo.
Vous voyez la grande différence. Hein. C'est ça la grande différence avec Cristiano Ronaldo.
Exactement.
Certes, mais lui, il avait une grand-mère italienne, apparemment.
Ribéry parlait aussi italien tout de suite, quand il arrive à la FIO. C'est vrai, en plus.
Matteo, il y a eu en plus la fin d'une malédiction, c'est ça, avec Giroud?
Ben oui, parce que après 6 saisons, un attaquant qui, avec le dossard numéro 9, a réussi à marquer à sa première sortie à San Siro, donc qui est pas mal. Et en plus, il a fait un doublé, et si je me trompe pas, ça fait depuis 2013 qu'un joueur avec le maillot numéro 9 ne réalisait pas un doublé dans sa première sortie à San Siro. C'était Mario Balotelli, si
exactement.
Je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Finalement, oui. Naïm, c'est la bonne pioche.
Giroud,
parce qu'ils ont Zlatan en réserve aussi.
Giroud est toujours une bonne pioche, en fait. Non, mais c'est vrai, je le pense en plus. Les gens qui critiquent et qui insultent Giroud me dégoûtent, parce que c'est un super attaquant. C'est un super attaquant qui a 34 ans, dont on sait qu'il fera jamais 25 bornes dans un match, mais qui a un ratio but temps de jeu toujours de très haut niveau. Bruno peut le dire, quand il joue à Chelsea, quand après le premier confinement, quand il est revenu, c'est lui qui a permis à Chelsea d'avoir les résultats qu'ils ont eu. C'est-à-dire que oui, il a son temps de jeu qui baisse, et puis c'est pas un attaquant technique, il est pas fin, il est pas tout ce que vous voulez, mais c'est un mec qui marque tout le temps. Donc c'est toujours une bonne pioche. C'est un très bon coéquipier, il sait faire jouer les autres. Donc moi, je suis très content de le voir retrouver du temps de jeu et de marquer des buts, parce que ça vous aura pas échappé, il n'est pas en équipe de France, et je trouve que c'est pas juste.
Bruno ?
Non, mais moi, je suis content pour lui. Un attaquant français de 34 ans qui signe au Milan AC, moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est une belle histoire. Et puis en plus, comme dit Naïm, c'est un mec sur qui on peut compter. Il ne nous déçoit jamais. Alors certes, ce n'est pas le meilleur attaquant du monde.
C'est vrai.
Mais pour un Milan qui a besoin un peu de certitude, d'expérience, et notamment devant... Moi, je trouve ça intéressant et voilà, je suis curieux de voir ce que l'association avec Ibrahimovic peut donner.
Exactement, parce que
jumelles devant.
Franck, c'est pas un proverbe italien, mais on dit dans les vieux pots, on fait la bonne soupe. Et là, on a deux vieux buteurs dans ce Milan AC. Olivier Giroud et Zlatan, lui, il frise les 40 ans. Et malgré tout, c'est des hommes qui sont toujours là, importants pour cette équipe.
Oui, mais c'est un alliage en plus qui... apparaît a priori complémentaire. Parce qu'il y en a un qui a une touche, une palette technique. On va pas revenir dessus. Hein. Zlatan, on l'a eu quelques saisons au Paris Saint-Germain et on a vu de quoi il était capable. Pour Giroud, tout a été dit ici, effectivement, et je plus sois, comme on dit. Hein, je suis d'accord avec mes copains. Et, non, mais c'est clair. Et en plus, un attaquant, franchement, tu demandes quoi un attaquant? Tu lui demandes ça à faire des ailes de pigeon ou
marquer des buts.
De la tête, du genou, de la hanche, on s'en fout. Quoi. C'est pareil, ça compte pareil.
Hein. En dehors du pénalty, son premier but, il est juste magnifique. Enroulé pied gauche, petit filet. C'est pas mal.
Il est pas, effectivement, on a eu tendance, enfin, quand on dit nous, c'est pas nous pour le coup, mais d'autres ont eu tendance à minorer justement sa palette, à le réduire à un mec lent, qui fait pas d'efforts et tout ça. Or, il marque les buts.
Le cas Giroud est d'une malhonnêteté incroyable. Et énormément de journalistes ont fait beaucoup de mal, enfin, de pseudo-journalistes ont fait énormément de mal à Olivier Giroud.
C'est ça, c'est surtout ça.
Il y a une espèce de solidarité triviale avec Benzema quand on parle de Giroud. Alors, excusez-moi, c'est deux choses complètement différentes.
Non. Malgré tout, nous, on va parler des Bleus.
Merci
beaucoup, Mathéo, d'avoir été en direct avec nous. Vous allez vous régaler cette année du côté de San Siro, alors.
J'espère. Je vous donne rendez-vous à ce jeudi où on aura droit de nouveau à Roberto Mancini.
Grande.
Bien sûr.
Vous l'avez dit qu'on est champion d'Europe. Ouais.
Merci. Merci, Mathéo.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci. Aussi, monsieur.
Retour à la maison, hein? Nouveau, tu vas chanter.
Tranquille.
Ça va bien, tranquille.
On a toujours un plaisir à se remettre au travail.
Bah, c'est une fierté hein, d'être ici dans l'équipe de France et de voir bien travailler.
J'ai hâte que ça commence.
Bienvenue les gars, ça vaut quoi? Bien? Hein?
Les Bleus au travail. L'équipe de France se prépare à Clairefontaine pour disputer ses trois matchs éliminatoires en vue de la Coupe du Monde au Qatar dans un peu plus d'un an. Des Bleus très attendus pour faire un peu oublier leur campagne à l'Euro qui s'est mal terminée. Ont-ils digéré d'ailleurs leur élimination en huitième de finale face à la Suisse? À écouter Didier Deschamps, leur sélectionneur, il semble que non.
État d'esprit avec toute mon énergie, ma détermination, comme l'ensemble du staff pour repartir après évidemment un été compliqué parce que forcément qu'il y a contre-performance, mais avoir toute l'énergie, la volonté et la détermination pour aller chercher ce qui est devant nous et qui est un objectif très important.
Il est fatigué votre coq là.
Oui, il était enroué, non. Comme pendant l'Euro.
Donc
Il tousse toujours, le coq, alors.
Franck, hein. Est-ce que il a passé un mauvais été?
Le coq a passé un mauvais été.
C'est un mauvais été. Didier Deschamps aussi. Ouais. Peut-être que les Bleus aussi.
Est-ce que c'est logique?
Ben
oui, c'est logique. Et il l'a dit. Et en plus, il l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça dans notre quotidien sportif national.
Exactement. Loris aussi a dit à peu près la même chose, le capitaine.
Oui, exactement. Ils étaient vraiment synchrones.
Bizarrement, hein. C'est fou.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Loris répète ce que dit Deschamps. C'est fou, quoi.
Mais que Deschamps les dit, on l'attendait aussi. On attendait de l'entendre et de le lire. Et ça va mieux en le disant? Sans doute pour lui que oui, mais pour les supporters, pour les joueurs, tout ça, pour ceux qui escomptaient que l'équipe de France, dans l'entourage, hein, je parle, hein, pas forcément, attendaient à ce qu'ils aillent au bout de la compétition. La déception, elle est immense. Hein. Oui. Je crois savoir que le président de la Fédération française était tout proche d'eux, d'ailleurs, hein, pour ce retour.
On va l'écouter tout à l'heure, justement, Noël Le Graët.
Il est allé, Noël Le Graët.
Naïm, cette équipe de France, on garde ça sur le cœur, ce genre d'échec, parce que, rappelons-le, élimination au tir au but, après un match épique.
On rappelle, 3-1 à combien 10 minutes
de la fin. 3-1, oui. Ouais. Et en plus, une équipe quand même, il faut le souligner, qui était rentrée dans la compétition d'une très belle manière face à l'Allemagne.
Rien n'a été sur cet Euro, c'est-à-dire que sportivement, c'est un échec cuisant. Au niveau des comportements, on a vu que ça n'avait pas été, se sont même engueulés sur le terrain le jour du match de la Suisse. Il y a eu des problèmes dans les tribunes entre le clan Mbappé et le clan Rabiot.
Tactiquement, ce qu'il a fait contre la Suisse.
Footballistiquement, rien n'a marché. Voilà. Donc c'est un échec cuisant, majeur.
Alors la question,
ça n'a rien à voir avec le pedigree de la Suisse.
Deschamps a encore la main finalement. Parce que là,
on lui donne.
En 2018, il nous avait, on peut dire, épaté par ses choix tactiques et tout, et surpris même. On se souvient de.
Matuidi sur le côté gauche.
Voilà, sur le côté gauche. Et en même temps, là, on a été un peu peut-être déçus par rapport à la matière qu'il avait.
Alors, est-ce qu'il a peut-être accordé trop de confiance à certains joueurs? Est-ce qu'il a notamment, quand ils lui ont demandé de changer de système pour mettre d'autres joueurs dans de bonnes dispositions, notamment pour Mbappé? Bon, on peut pas reprocher à un sélectionneur de mettre ses joueurs, d'écouter ses joueurs et de les mettre dans de bonnes dispositions. Ce serait pas honnête de dire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il s'est rendu compte que c'est un échec, il doit reprendre la main. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir, de lire ses déclarations, notamment sur la brouille entre Mbappé et Giroud, de voir un peu ce qu'il raconte. J'ai peur que, à un moment donné, certains joueurs prennent le monopole dans cette équipe. C'est là où on l'attend, Deschamps, sur ce rassemblement, sur les prochains.
Oui.
Est-ce que c'est encore lui le patron? Est-ce que c'est encore lui le taulier? Est-ce qu'il est encore capable
parce
de dire un type?
C'est toujours finalement la star de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Est-ce qu'il peut encore dire à un mec qui vaut 200 millions, tu la fermes, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis? Ou alors il part du principe que c'est lui l'avenir de l'équipe de France? Et à ce moment-là, on commence à aménager le terrain pour lui au détriment des uns des autres. Et là, il va y avoir des problèmes. Mmh. C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Bruno, est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi?
La force des Bleus de Deschamps de 2018, c'est justement qu'il n'y avait pas de star dans l'équipe.
Mm-hmm.
Comme vous le disiez, la star, c'était Deschamps. C'était
mais vous
le patron.
Savez, d'ailleurs, au lendemain de l'élimination, je me souviens très bien qu'on avait entendu Alain Giresse dans cette émission et qui nous disait, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est d'être au top et d'y rester.
Bien sûr.
La deuxième chose, en disant, mais les joueurs, ils sont devenus champions et ils sont presque légitimes à donner leur avis. Et que c'est là que, des fois, c'est compliqué.
Et puis surtout, on est encore dans l'imaginaire, dans la tête que l'équipe de France a survolé la Coupe du Monde. Non, elle a survolé la Coupe du Monde à partir des demi-finales et de la finale. Mais avant ça, ça a été extrêmement...
C'est un tout petit survol alors.
Non mais tu te souviens Franck, les matchs de poule, c'était extrêmement laborieux. Contre l'Argentine, ça passe pas grand-chose.
C'est un super match, mais ça passe...
Ça a été très compliqué et c'est aussi de très très haut niveau. Ça joue vraiment sur des détails. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'avant, il n'y avait pas de répondant dans le groupe. Il n'y avait pas de caractère fort et Deschamps s'était attaché justement à les écarter un peu. Les éléments qui pouvaient poser des problèmes, je pense au cas Benzema, on ne sait pas tout ce qui s'est passé derrière, mais pourquoi il n'a pas été appelé pendant si longtemps, il y avait un caractère face à lui, il ne voulait pas de problème dans son groupe. Et là, il y en a eu. Et il y en a eu par qui? Par deux personnalités, qu'on évoque petits, mais sans trop les pointer du doigt. Le premier, c'est quand même Kylian Mbappé, qui a un caractère très très fort, qui ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. La dernière chose en date, c'est quand il va voir directement le président de la fédération pour se plaindre, frapper à la porte et aller frapper des problèmes à discuter directement avec lui, alors que ce n'est pas le premier joueur à se faire critiquer que sous le maillot d'équipe de France. Et puis le deuxième, c'est Paul Pogba, qui a pris des libertés tactiques sur le terrain en désaccord avec son entraîneur. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave, en fait. C'est de désobéir sur le terrain et de provoquer des problèmes. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec Naïm et Franck, il va falloir remettre de l'ordre dans cette maison bleue. Et c'est à Deschamps de le faire. Est-ce qu'il est capable? Est-ce que les joueurs, surtout, sont capables de rentrer dans le rang? Et je pense surtout à Mbappé. Je pense que Pogba en est capable. Mbappé, quand on voit ce qui s'est passé au PSG ces derniers temps,
c'est plus épineux.
Il y a des petits doutes quand même.
Bon, en tout cas, les éliminatoires commencent dès demain. Alors, je vous rafraîchis la mémoire. On est allé chercher parce qu'on s'est dit, oh là là, mais ces éliminatoires, quand est-ce qu'elles ont commencé déjà? Quels étaient les résultats? Pour ceux qui auraient oublié, en tout cas, ça avait débuté le 24 mars dernier au Stade de France. D'abord, c'était un match nul face à l'Ukraine. L'Ukraine encore entraînée par Shevchenko à l'époque. Ensuite, il y a eu ce voyage au Kazakhstan. Là, l'équipe de France était allée gagner 2-0. Et puis, une victoire en Bosnie, 1-0. La France est première du groupe et elle recevra donc demain, c'est à Strasbourg, la Bosnie-Herzégovine. Alors, objectif, bien sûr, eh bien, se qualifier. Et vous allez l'entendre, justement, le président de la fédération qui est allé un peu battre le rappel, peut-être, ou secouer ses troupes. Écoutons, à sa manière, pour un monsieur de 80 ans, écoutons-le, le président de la fédération, Noël Le Graët.
J'ai besoin, nous avons besoin. Moi, je regarde ce sont des yeux. C'est impossible qu'une équipe comme celle-là n'aille pas au Qatar. Il y a besoin effectivement de trouver une unité, d'abord une envie commune de faire plaisir à son copain avec le foot, en donnant le ballon, de se faire plaisir à soi-même. Le football, c'est du plaisir, hein. Et je sais que vous en avez quand vous êtes sur un terrain. Il n'y a que ça qui compte, la gagne. On a trois matchs, dont deux en France. On a un intérêt collectif à être très très bon, d'être unis sans aucune ambiguïté. Donc j'ai besoin effectivement une équipe solidaire, solide, qui se pose pas de questions, mais qui se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas. La Fédération de la France a besoin de nous.
La Fédération de France a besoin de vous. Franck, c'est vraiment le rappel à l'ordre?
La fédération a besoin de Franck Simon, futur président. Alors, Franck. Hein.
Oh non, surtout pas.
Tu me préserves. Bien.
Après être passé à ça de non, la sélection italienne.
C'est ça. Ah, des origines. Une grand-mère italienne du Piémont, Bruno. Ne sois pas jaloux. Mais j'aurai bientôt mon passeport ivoirien, donc je pourrai prétendre à la sélection ivoirienne.
En plus.
Ah, voilà. Dans les cages.
Il y a du beau monde. Bon. Non, franchement, là, c'est les propos du président Le Graët. Avec tout le respect qu'on lui doit, mais c'est lunaire, quoi. C'est ce que je viens d'entendre, ça. Je trouve ça terrible, terrible. Et je suis joueur de foot, je fais tomber mon crayon sous la table et je me planque pour rigoler, quoi. Parce que franchement, c'est terrible. C'est risible, quoi.
Si tu te souviens bien, alors évidemment, c'est pas le même contexte, mais à l'époque, Domenech, ça a commencé comme ça. Hein. Ça a commencé à faire des discours en se disant faut absolument qu'on se qualifie pour l'Euro 2012, pour l'Euro 2008 hein. Ou pour le Mondial 2010, alors qu'on jouait la Lituanie, les îles Féroé, hein, qu'on avait une équipe largement
au-dessus. On a commencé
voilà, à se mettre un peu la rate au cambouillon en disant attention, on joue terre, oh là là, mon Dieu, on va jouer les îles Féroé, oh là là, il y a la Géorgie.
Puis t'as entendu derrière, voilà. Puis surtout, faut jouer pour son copain.
Voilà, et puis faut jouer le patriotique, l'honneur national, et puis on sait comment ça s'est terminé. Attention.
Mais c'est inquiétude pour des champions du monde qui veulent remettre leur titre en jeu.
Tempête dans un verre d'eau, quoi.
L'objectif, va dire, c'est forcément la qualification. Mais l'objectif prioritaire pour moi de l'équipe de France, maintenant que Giroud est en train de se tourner, c'est d'intégrer Karim Benzema et l'association entre Benzema, Mbappé et Griezmann de la meilleure des façons. Parce qu'il y a eu des étincelles malgré tout dans cet Euro, moi qui m'ont plu avec Benzema, et j'ai envie de revoir ça. Et si l'équipe de France arrive à trouver cet équilibre, l'équilibre avec cette association offensive, je pense qu'elle sera à nouveau favorite pour la Coupe du Monde et elle sera difficile à battre.
Eh bien, on verra ça et on observera ça à la loupe. RFI a son envoyé spécial du côté de Strasbourg, Thomas de Saint-Léger. Alors, coup d'envoi de ces éliminatoires un peu partout et notamment aussi en Afrique, sur le continent bien sûr, éliminatoire. Alors toujours un peu difficile et éprouvante, hein. Non seulement les distances, les déplacements, les terrains interdits, n'est-ce pas Franck? Il y en a quelques-uns,
Des stades qui ne sont pas aux normes et qui logiquement...
Il y avait eu un coup de semonce, mais il y en a qui vont jouer chez les voisins et en plus à huis clos, la décision de la CAF est
sortie. Sauf en Côte d'Ivoire, a priori, 10 000 spectateurs attendu à Ebimpe pour le match, je crois que le match au sommet.
Mais sinon, dans l'ensemble, ça sera des huis clos un peu partout, notamment à Madagascar. Et on pense à Eric Rabessandratana, mais aussi du côté du Sénégal. Alors demain, il y a plusieurs rencontres. Nous avons République centrafricaine, Cap-Vert et Guinée-Bissau contre la Guinée qui se retrouve. On a aussi Mali-Rwanda, Égypte. Sans Salah.
Le Mali, ça sera Angola. Au Maroc.
Oui, qui joue. Et puis Libye-Gabon. Et enfin, un appétissant Sénégal-Togo. Écoutons justement l'un des joueurs de cet effectif, Joseph Lopi, l'international sénégalais qui est milieu défensif du côté du FC Sochaux. Sochaux entraîné par un autre Sénégalais, je ne me trompe pas, hein, Franck.
Exact, hein, monsieur.
Un certain Omar Daf.
Omar Daf.
Écoutons-le évoquer justement l'envie de bien faire pour ces Lions de la Teranga.
On est une équipe que tout le monde veut battre entre guillemets et vaut mieux être dans cette position là. Moi je préfère être dans la position de celui que tout le monde veut battre plutôt que l'outsider qui cherche à battre le leader. Donc c'est une bonne position et mentalement il y a que des joueurs prêts, il y a que des joueurs qui jouent dans leur club pour gagner des titres. Donc une équipe qui soit dos au mur ou pas, toutes les équipes veulent nous battre. Nous on va pas en tenir compte, on va rentrer sur le terrain en étant à 2000% avec un seul objectif, celui de remporter le match. Après si eux sont surmotivés, ils ne le seront pas plus que nous. Donc voilà, nous on va garder le cap et continuer à travailler comme on le fait toujours.
Franck, c'est si difficile de se qualifier en Afrique. Hein. Seulement 5 sélections sur 54 fédérations, n'est-ce pas ?
Ouais, il suffit pas de terminer premier, ça c'est une première étape de chaque groupe. Il y aura ensuite des barrages. Mm-hmm. Et des barrages qui seront disputés après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine donc au Cameroun. Donc ça sera à l'horizon mars 2022.
Donc là, les Lions de la Teranga se montrent déjà finalement très attentifs, même s'ils rencontrent une équipe qui ne disputera pas la CAN, qui ne s'est pas qualifiée,
qui a
le
changé
Togo,
de sélectionneur.
Et qui a changé de sélectionneur.
Claude Leroy a été remplacé par le Portugais Paulo Duarte.
Qu'on a bien connu du côté notamment du Burkina pendant longtemps.
Oui, qui était en Angola du côté du Primeiro de Agosto. Il a terminé deuxième du championnat et donc il a été entre-temps libéré. Et il a rejoint il y a très peu de temps cette équipe. Il a donné une liste. Il y a quand même des absences côté Épervier du Togo. Mais il y a des joueurs, il y a un joueur important qui manquera, notamment qui s'appelle Ilas Bebou, qui joue, je crois, à Hoffenheim, qui est un joueur, une pièce essentielle.
Floyd Ayité jouera pas.
Floyd Ayité non plus. Oui. Il y en a d'autres. Il y a d'autres joueurs qui font partie de la rotation, qui seront absents. Mais il y a la volonté d'imiter des équipes togolaises d'il y a quelques années. Ils n'ont pas joué l'un contre l'autre depuis une quinzaine d'années. Sauf qu'en 2004-2005, les Éperviers du Togo, emmenés par Cheikh Yadé Bayor, avaient barré la route au Sénégal. Pour la Coupe du Monde,
quand on parle du Togo, je te vois à peu près le même sentiment qu'avec la Guinée. C'est-à-dire qu'individuellement, ils ont toujours des beaux joueurs, de la qualité dans tous les secteurs de jeu, des joueurs qui peuvent jouer dans à peu près tous les championnats. Par contre, collectivement, ça ne marche jamais, ou alors très rarement. Et c'est un vrai souci. Alors, je sais pas si c'est parce que ça bouge beaucoup en interne et qu'on a rarement les mêmes listes, qui est souvent le cas dans les pays africains. Est-ce que ça travaille moins bien dans le championnat local qu'ailleurs? Je sais pas. Mais il y a toujours des beaux joueurs, toujours des bons jeunes qui arrivent avec le Togo, et finalement, collectivement, ça marche jamais. Et c'est quand même inquiétant, parce qu'aujourd'hui, le Togo, c'est un vrai pays de foot, il y a des beaux joueurs, on en connaît plein, historiquement, mais aujourd'hui. Mm-hmm. Mais ça fait pas un pli que le Sénégal est archi favori, et que si ça se passe comme ça doit se passer, je souhaite de mal à personne, mais normalement, le Sénégal, ils doivent leur rouler dessus. Et pourtant, c'est une équipe qui, normalement, doit exister à plus haut niveau.
Mais il y a quand même des joueurs dont il faut parler. Le gardien qui est en France, Malcolm Barcola, qui est réserviste à l'OL. Tu as Jane Dacunam, le capitaine, qui joue en Espagne. Retafe, qui est suivi par d'autres grands clubs.
Dis qu'individuellement, tu as des joueurs de qualité. Mais pour que la mayonnaise prenne collectivement, c'est toujours plus compliqué. Et puis en Afrique, tu as peut-être moins le temps qu'ailleurs. Déjà, parce que le calendrier s'enchevêtre de manière un petit peu plus compliquée.
Là, c'est encore pire. Ils sont arrivés, certains sont arrivés il y a à peine 24 heures.
Oui, en plus.
Ils ont eu.
Ils avaient demandé.
Deux séances aujourd'hui. Oui. Il y a eu une séance hier, il y a eu deux séances aujourd'hui. Une le matin, une la officielle par rapport au match de demain contre le Sénégal, d'ailleurs au stade La Dior de Thiès. Mm-hmm. Un stade qui, lui, pour le coup, a subi un vrai lifting et avec un vrai bon gazon. Il était temps parce que les acteurs qui ont défilé ces dernières années, depuis 3 ans que le Sénégal y évolue, à chaque fois se plaignaient de
le pauvre Sadio Mané, d'ailleurs, s'est fait tacler par les politiciens alors qu'il avait raison.
Il avait totalement raison, Sadio. Mais voilà, effectivement, avec la colonne vertébrale que l'on connaît du côté du Sénégal, on va la rappeler quand même, Edouard Mendy, sans doute un des meilleurs gardiens
d'Europe,
le meilleur gardien d'Europe et le meilleur d'Afrique et sans doute un meilleur du monde. tu as Kalidou, le double K, Kalidou Koulibaly, Ganagay, Sadio Mané, c'est pas mal et ça permet de...
Kepa Diata absent, attention.
Oui.
Pindiata forfait.
Oui, mais il y a d'autres ressources t'as chez les Lions.
Le problème du Sénégal, c'est jamais les joueurs, hein, c'est le jeu. Hein. C'est compte tenu des joueurs qu'ils ont.
C'est l'inquiétude qu'on peut avoir.
Eh bien, on y reviendra évidemment dans Radio Foot International à ces journées africaines qui commencent donc demain. Et soyez au rendez-vous puisque nous reviendrons sur tous ces matchs. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, messieurs.
Plaisir.
Et on vous dit à demain. Cool, cool, cool.